Dominus vobiscum.
Nous allons maintenant écouter la proclamation de l'Évangile tirée de Saint Matthieu, chapitre 16.
Secundum Matteum.
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.
Verbum Domini.
En la fête des deux apôtres de cette ville, je voudrais partager avec vous deux paroles clés, unité et prophétie. Unité. Nous célébrons ensemble deux figures très différentes. Pierre était un pêcheur qui passait ses journées entre les rames et les filets. Paul, un pharisien cultivé, qui enseignait dans les synagogues. Lorsqu'ils partirent en mission, Pierre s'adressa aux Juifs, Paul aux païens. Et quand leurs chemins se sont croisés, ils discutèrent de façon vive, comme Paul n'a pas honte de le raconter dans l'une de ses lettres. Ils étaient donc deux personnes des plus différentes, mais ils se sentaient frères, comme dans une famille unie, où on discute souvent, mais où on s'aime toujours. Cependant, la familiarité qui les liait ne provenait pas des inclinations naturelles, mais du Seigneur. Il ne nous a pas demandé de nous plaire, mais de nous aimer. C'est lui qui nous unit sans nous uniformiser. La première lecture d'aujourd'hui nous porte à la source de cette unité. Elle raconte que l'Église, à peine née, traversait une phase critique. Hérode était furieux, la persécution était violente, l'apôtre Jacques avait été tué. Et maintenant, même Pierre est arrêté. La communauté semble décapitée. Chacun craint pour sa propre vie. Et pourtant, en ce moment tragique, personne ne s'enfuit. Personne ne pense à sauver sa peau. Personne n'abandonne les autres. Mais tous prient ensemble. Dans la prière, ils puisent le courage. De la prière vient une unité plus forte que toute menace. Le texte dit que, tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. L'unité est un principe qui s'active par la prière, parce que la prière permet à l'Esprit-Saint d'intervenir, d'ouvrir à l'espérance, de réduire les distances, de rester ensemble dans les difficultés. Remarquons une autre chose. Dans ces circonstances dramatiques, personne ne se lamente du mal, des persécutions, d'Hérode. Aucune insulte à Hérode, alors qu'on est tellement habitué à insulter les responsables. C'est inutile et même fastidieux que les chrétiens perdent leur temps à se lamenter du monde, de la société, de ce qui ne va pas. Les lamentations ne changent rien. Rappelons-nous,
la seconda porta chiusa allo Spirito Santo, come vi ho detto.
Que
il giorno di Pentecoste, no?
La
prima il narcisismo.
Que la première porte qui ferme au Seigneur, c'est le narcissisme. Le pessimisme
ti porta allo specchio, guardarti continuamente.
Le fait de se regarder dans le miroir continuellement mène au découragement et aux lamentations. Et le pessimisme, c'est ce qui mène vers l'obscurité. Ce sont des attitudes qui ferment la porte à l'Esprit-Saint. Ces chrétiens n'accusaient pas, ils priaient. Dans cette communauté, personne ne disait « Si Pierre avait été plus prudent, nous ne serions pas dans cette situation. » Pierre, humainement,
non parlavano di lui, ma pregavano per lui. Non parlavano alle spalle, ma parlavano a Dio.
Personne n'accusait Pierre. Non, il ne parlait pas mal de lui, mais priait pour lui. Il ne parlait pas dans le dos, mais à Dieu.
Unità della Chiesa. Preghiamo gli uni per gli altri.
Aujourd'hui, nous pouvons nous demander, gardons-nous notre unité par la prière, prions-nous les uns pour les autres. Qu'est-ce qui arriverait si on priait beaucoup plus et si on murmurait beaucoup moins? Ce qui est arrivé à Pierre en prison, comme à l'époque, de nombreuses portes qui séparent s'ouvriraient, plusieurs chaînes qui paralysent tomberaient.
E noi saremmo meravigliati come
e nous serions
quella ragazza Rode che
émerveillés.
Pietro la porta non riusciva a aprire la porta, ma andava dentro e stupita della gioia di vedere. Chiediamo la grazia di
demandons la grâce de savoir prier les uns pour les autres. Saint Paul exhortait les chrétiens à prier pour tous et en premier lieu pour ceux qui gouvernent. Mais ceci,
et les qualificatifs sont tanti, je ne les dirai pas parce que. Questo non è il momento, nel posto di dire i qualificativi che si sentono contro i governanti.
C'est pas le moment de parler des,
Dio, ma preghiamo per i governanti.
Des insultes qu'on adresse aux gouvernants, mais il faut prier.
Hanno bisogno della preghiera.
Pour les gouvernants, ils ont besoin de la prière.
È un compito che il Signore ci affida.
C'est un devoir que le Seigneur nous confie.
Oppure parliamo,
le faisons-nous,
ascoltiamo.
Ou bien parlons-nous et ça s'arrête là. Dieu attend que quand nous prions, nous nous souvenions aussi de celui qui ne pense pas comme nous, de celui qui nous a fermé la porte au nez, de celui à qui nous avons de la peine à pardonner. Seule la prière défait les chaînes, comme pour Pierre, seule la prière aplanit la voie vers l'unité. Aujourd'hui, on bénit les palliums qui sont conférés aux doyens du collège cardinalis et aux archevêques métropolitains nommés au cours de cette dernière année. Le pallium rappelle l'unité entre les brebis et le pasteur qui, tout comme Jésus, charge la brebis sur ses épaules pour ne jamais s'en séparer. Puis aujourd'hui, selon une belle tradition, nous nous unissons de façon spéciale au patriarche écuménique de Constantinople. Pierre et André étaient frères et nous, quand cela est possible, nous échangeons des visites fraternelles durant nos fêtes respectives. Non pas tant par gentillesse, mais pour cheminer ensemble vers le but que le Seigneur nous indique, la pleine unité. Aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à venir car les voyages sont compliqués à cause du coronavirus. Mais quand je suis descendu sous l'autel de Pierre, j'ai senti comme une présence fraternelle de Bartholomé à mes côtés. La seconde parole, prophétie. Unité et prophétie. Nos apôtres ont été provoqués par Jésus. Pierre s'est entendu demander : Toi, qui dis-tu que je suis ? À ce moment, il a compris que les opinions générales n'intéressent pas le Seigneur, mais le choix personnel de le suivre. De même, la vie de Paul a changé après une provocation de Jésus. « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ?» Le Seigneur l'a secoué du dedans, plus que de le faire tomber à terre sur le chemin de Damas. Il a fait tomber sa présomption d'homme religieux et respectable. Ainsi, le Saoul fier est devenu Paul, qui signifie « petit ». Après ces provocations, après ces retournements de vie, suivent les prophéties. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et à Paul, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. Donc, la prophétie naît lorsqu'on se laisse provoquer par Dieu. Non pas quand on gère sa tranquillité et qu'on contrôle tout. Cela ne naît pas de mes pensées ou d'un cœur fermé. Cela naît si nous laissons provoquer par Dieu. Quand l'Évangile renverse les certitudes, la prophétie jaillit. Seul celui qui s'ouvre aux surprises de Dieu devient prophète. Et les voilà, Pierre et Paul, des prophètes qui voient plus loin. Pierre, qui le premier proclame que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Paul anticipe la fin de sa vie. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra. Aujourd'hui, nous avons besoin de prophéties, de vraies prophéties. Non de beaux parleurs qui promettent l'impossible, mais de témoignages que l'Évangile est possible. Il n'est point besoin de manifestations miraculeuses. Moi, ça me fait mal quand j'entends proclamer que nous avons une église prophétique. Bon, c'est bien. Nous voulons la prophétie.
Mais
il faut des vies qui manifestent le miracle de l'amour de Dieu. Non de puissance, mais de cohérence. Non de parole, mais de prière. Non de proclamation, mais de service. Une église prophétique est une église qui sert et qui se tait. Non de théorie, mais de témoignage. Nous n'avons pas besoin d'être riches, mais d'aimer les pauvres. Non de gagner pour nous-mêmes, mais de nous dépenser pour les autres. Non du consentement du monde, et c'est pas l'idée d'être bien avec tout le monde. C'est pas être bien avec le diable et avec Dieu. Non, ça c'est pas une prophétie. Mais nous avons besoin de la joie pour le monde à venir, non pas de projets pastoraux efficaces. Ces projets qui semblent avoir leur propre efficacité, comme si c'était des sacrements, des projets pastoraux efficaces. Non, nous avons besoin de pasteurs qui offrent leur vie, des amoureux de Dieu. Ainsi, Pierre et Paul ont annoncé Jésus en amoureux. Pierre, avant d'être mis en croix, ne pense pas à lui-même, mais à son Seigneur, et se considérant indigne de mourir comme lui, demande d'être crucifié la tête en bas. Paul, avant d'être décapité, pense seulement à donner sa vie et écrit qu'il veut être offert en sacrifice. Ceci est une prophétie. Ce ne sont pas des mots, c'est une prophétie qui change l'histoire. Chers frères et sœurs, Jésus a prophétisé à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». De même, pour nous, il y a une prophétie semblable. Elle se trouve dans le dernier livre de la Bible, là où Jésus promet à ses témoins fidèles un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau. Comme le Seigneur a transformé Simon en Pierre, de même, il appelle chacun de nous pour faire de nous des pierres vives avec lesquelles construire une église et une humanité rénovée. Il y a toujours ceux qui détruisent l'unité et éteignent la prophétie, mais le Seigneur croit en nous et il te demande, toi, veux-tu être bâtisseur d'unité? Veux-tu être prophète de mon ciel sur la terre? Chers frères et sœurs, laissons-nous provoquer par Jésus et trouvons le courage de lui dire « Oui, je le veux ». Voilà donc pour cette longue homélie du pape François. Une homélie marquée par de nombreuses improvisations. Le pape qui est revenu sur deux dimensions de l'apostolat, l'unité et la prophétie. Le pape a insisté sur le fait que l'évangile ne se transmet pas seulement par des mots, par des théories, par des belles paroles, mais d'abord par des actes, par l'exemple. Ce ne sont pas les opinions générales qui intéressent le Seigneur, mais le choix personnel, le choix en profondeur de le suivre, de se laisser convertir, de se laisser secouer, comme Paul sur le chemin de Damas qui a fait tomber sa présomption d'homme religieux et respectable pour se faire petit, comme son nom l'indique. Paul signifie petit. Et Paul est ainsi devenu l'instrument choisi par le Seigneur pour faire parvenir son nom auprès des nations. La prophétie naît lorsqu'on se laisse provoquer par Dieu et non pas quand on gère sa tranquillité et qu'on contrôle tout. Quand l'évangile renverse les certitudes, la prophétie jaillit, insistait le pape François. Seul celui qui s'ouvre surprise de Dieu devient prophète. Et cette vie bouleversée de ceux qui ont choisi de suivre le Seigneur apporte la joie. Lorsque Paul anticipe la fin de sa vie, il dit « Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra. » Paul a donc mené le bon combat.